Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode culturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote personnelle qui a fait germer en moi une réflexion assez intéressante sur la fiction et la littérature en règle générale. Donc, pour vous donner le contexte, j'étais dans une librairie il y a quelques jours et je suis tombé sur une certaine petite extravagance qui aurait fait sourire n'importe quel cinéphile. Je vois dans les rayons Once Upon a Time in Hollywood par Quentin Tarantino, un roman. Alors, tout auditeur fidèle de cette chronique n'ignore nullement que je cultive une certaine fascination pour les années 60 et 70. Et donc, lorsqu'en 2019, le dernier film de Tarantino était annoncé et qu'il se revendiquait comme une lettre d'amour au Hollywood de la fin des années 60, il fallait vraiment m'imaginer très très content. Et encore, c'était un euphémisme comparé à ma réaction lorsque j'ai compris que le film serait un retelling du meurtre de Sharon Tate en août 69. Qui est un événement que Joan Didion, que j'affectionne particulièrement, analysait avec beaucoup de choc et de mystère dans sa collection d'essais The White Album, dont on a déjà parlé dans la chronique. J'ai personnellement beaucoup aimé ce film, pour son ambiance d'une part, son aspect fleuve, puisque rien ne se passe vraiment et on a un développement d'intrigues multiples, et évidemment pour la fin, qui réécrit l'histoire et donne le ton final au « Il était une fois, trois petits points à Hollywood », qui sert de dernière scène. Ce long film, à l'intrigue complexe et aux références historiques pointues, dont la narration se complexifie au moyen d'ellipses et d'analepses, dont une qui est enchâssée, quelque chose de très proustien, puisqu'à un moment on va avoir un flashback dans un flashback, révèle au spectateur le plus averti toute une dimension métacinématographique. Alors, littéraire de profession, j'étais ravi de pouvoir user de mon outillage critique sur un film avec autant d'aisance et de liberté. C'est pourquoi j'étais d'autant plus ravi de voir sous mes yeux, dans ma librairie de choix, une petite brique de 400 pages arpentant les visages de DiCaprio et Brad Pitt, surtout Margot Robbie, sous les traits de Sharon Tate. Je le feuillette un peu et je me rends compte que c'est un vrai roman, narré à la troisième personne, avec un recours à la focalisation interne. Je m'empresse donc de le prendre avec moi et de l'acheter. Je regarde sur mon retour chez moi, sur mon téléphone, le contexte un peu de la publication de ce livre et surtout sa nature. Et donc, je me rends compte que c'est en effet pas du tout un script, ni seulement une mise en prose du film, mais bien un développement qui veut en fait et bien développer l'univers au moyen d'un roman fleuve qui a été développé dans le film. Et il y a quelque chose de très très drôle en termes d'adaptation, puisque on a donc un livre qui adapte un film. Je trouve qu'on enjolive souvent l'importance de lire un livre avant de voir le film, et je suis d'accord dans la plus grande partie, tout simplement parce que d'un point de vue génétique, c'est comme cela que ça a été pensé. On a littéralement adapté quelque chose en une autre, mais également parce que cela offre au cerveau une certaine jouissance tout à fait physique. L'effort de lecture nous force à construire un monde à l'aide de mots. Or, si après avoir imaginé ce monde, vous le voyez mis en image, déroulé sous vos yeux, vous avez aussi bien le confort d'une cristallisation qui donne matière à toutes les images mentales que vous aviez construites, mais plus encore, votre regard critique s'aiguise du fait que vous avez remarqué chaque prise de position du cinéaste, scène coupée, détails changés, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pourrait défendre une lecture postérieure à l'adaptation? En toute honnêteté, par simple appréciation de l'intrigue selon moi. J'ai deux souvenirs d'enfance très nets qui montrent en fait l'importance de ces deux tendances. La première, c'est mon expérience avec Harry Potter. Il faut savoir que j'ai une affection toute particulière pour l'œuvre de J.K. Rowling, qui a été ma première expérience avec la littérature. Et donc, en gros, mon père me lisait les livres parce que j'avais vu les films et j'avais envie à l'époque de voir la suite et de savoir ce qui se passait. Et donc, il m'a lu, puis j'ai lu les livres avant de voir les derniers films. Et quel plaisir ça a été dans la salle de cinéma quand j'ai vu les films et de voir le spectaculaire un peu de la fin à l'écran. La dynamique inverse était un peu plus tard à l'adolescence, puisque j'ai vu le film de Baz Luhrmann de 2013 sur Gatsby le Magnifique. Et parce que j'avais adoré l'histoire et que j'avais envie d'en savoir plus, d'en voir plus, d'en apprendre plus, j'avais lu le livre. Et c'était un plaisir en fait de voir ça en littérature parce que ça allait plus loin que l'image simple. Si je suis moi-même tout à fait conscient qu'il est sans doute plus appréciable d'interroger l'adaptation dans l'ordre chronologique, je me suis trouvé de plus nombreuses fois, en fait, à faire le choix de lire un livre après avoir vu le film qui l'adaptait. C'est exactement, pour les raisons que je viens d'expliquer, que Tarantino, en fait, selon moi, choisit de redonner un souffle à Once Upon a Time in Hollywood, dont le titre nous annonce d'ailleurs, puisqu'il est mis à la fin du film, continuellement une histoire à venir et à revivre. Je ne vous cache pas que je ne suis pas le plus grand fan de Quentin Tarantino en règle générale. La violence ne m'intéresse pas tant que ça dans les médias. De même, l'univers archi-masculin, macho et vulgaire de ces films me semble un peu daté et de mauvais goût. Le livre, plus que le film, choisit de développer les pires aspects de Tarantino. Les femmes ne sont désormais caractérisées que par la sensualité de leurs pieds, un fétiche bien connu du réalisateur, mais qui, selon moi, est très dérangeant. Le N-word est employé au milieu de nombreuses remarques racistes, qui ne sont bien sûr pas celles du cinéaste-auteur, mais bien celles de ses personnages. Tous ces personnages. Également de longues pages d'éloges à Roman Polanski, éloges qui sont pour certaines absolument justes, mais peu appropriées au contexte actuel, montrant notamment les limites de cette volonté de retelling historique qui peine à faire oublier la réalité encore actuelle et brûlante. Toutefois, je dois admettre que Tarantino reste un génie dans son art. Tout simplement parce qu'il sait que son film touche des sommets en termes de mise en abîme et qu'il dépasse ce seuil à nouveau en le publiant en livre. Par exemple, à un moment, le personnage principal, acteur de film dans un film, lit un livre dans lequel le personnage principal connaît les mêmes problématiques que lui. Or, on a maintenant un livre où un personnage principal de film se reconnaît dans un livre qui montre en fait que la boucle se développe toujours plus. Et plus encore, parce que le film entier se veut un éloge au pouvoir de la fiction, il est d'autant plus pertinent de le développer en livre. L'univers créé, ou plutôt recréé, entend redonner vie aux morts et redonner vie à un passé révolu. Il entend plus encore inverser le cours du temps et rendre justice. Il est difficile en effet de ne pas voir dans le film une opposition entre les cow-boys et les hippies, qui sont à la fois une incarnation respective des 60s et des 70s, et une incarnation manichéenne des gentils et des méchants, là où Sharon Tate prendrait le rôle de la princesse à sauver. Mais surtout, cow-boys et hippies sont une apologie finale de l'artifice. En effet, les films de Tarantino sont violents certes, mais ne sont que de la chorégraphie, comme le témoigne la présence de Bruce Lee, mal interprétée par les médias comme une discrimination raciste. En contrepartie, la violence de la Manson Family, hippie meurtrier de l'époque, pourtant pacifiste, reste réelle. Ainsi, Tarantino, en un sens, par la fiction, fait l'éloge de la fiction. Une violence à l'écran, largement critiquée par les médias aujourd'hui, ne reste qu'artifice et chorégraphie. Et en l'occurrence, elle est le moyen de remédier à la violence de ceux qui se voulaient pacifistes. Sont ainsi taclés les hippies de l'époque qui ont tué Sharon Tate, mais également les critiques de Tarantino qui brident l'art et, en un sens, le tuent. Ainsi, développer cette histoire sur le papier est pertinent et totalement ingénieux de la part de Tarantino, car elle pousse à l'abandon de l'image au profit d'une fiction totale, celle qui donne au mot toute sa force et tout son impact.